Allô, Kumbashi. Sur 93,8. Dans la lutte contre le VIH-Sida, l'OMS, en collaboration avec le PNMLS, lance une nouvelle stratégie de dépistage de cette maladie. Plutôt que de recourir aux pères éducateurs, on va s'appuyer désormais sur les prestataires qui sont les infirmiers et les médecins. Pour rappel, les pères éducateurs conseillent aux candidats d'aller dans un centre de dépistage où ils sont directement soupçonnés par des curieux. Quels sont alors les avantages que présente la nouvelle stratégie? Quels sont les obstacles que pourraient rencontrer ces prestataires? Nous allons faire le point avec Dona Chimbos. Dona, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, je vous capte 5 sur 5.
Oui, Dona, cette nouvelle approche que préconise le gouvernement congolais avec l'appui de l'OMS et l'ONU SIDA, notamment, semble accorder une grande attention à la prévention. A-t-elle un fondement scientifique?
Oui, d'après l'OMS, en Afrique subsaharienne, près de 80% des adultes séropositifs ignorent leur statut sérologique et plus de 90% ne savent pas si leurs partenaires sont porteurs du virus. Pour les chercheurs de l'OMS, elles soutiennent que quand les personnes se font dépister en masse, il y a avantage de déceler à temps celles atteintes. Et si elles sont immédiatement soumises à un traitement antirétroviral, cela réduirait jusqu'à 95% le nombre de nouvelles infections en 10 ans dans les pays à forte prévalence. Et les souhaits des chercheurs de l'OMS seraient que tous les adultes subissent un test de dépistage au moins une fois par an. Et si tel est le cas, et si les personnes séropositives recevaient immédiatement un traitement, les taux de VIH-Sida passeraient en théorie de 20 000 pour 1 million à 1000 pour 1 million par an. Et en 10 ans.
Bien, Katanga vient d'être lancé cette nouvelle approche de Natimboge dans le dépistage. En quoi consiste-t-elle et en quoi est-elle différente de l'approche utilisée jusque-là?
Oui, j'ai posé cette question au docteur Tarsis Elongo, chef du bureau OMS Katanga. Et je préfère que vous suiviez sa réponse en tant qu'expert.
Cette approche consiste à focaliser l'action sur le prestataire, le personnel soignant. C'est parce que nous estimons que c'est une opportunité qu'ont les personnels soignants vis-à-vis de malades qui viennent pour le soin au niveau de leur structure, et que c'est quelqu'un qui vient pour le soin au niveau d'un centre de santé ou bien d'un hôpital et qui a contact avec le personnel soignant. C'est au départ de là que maintenant il va aller faire un certain dépistage, sans nécessairement qu'il passe directement par l'unité qui est connue par tout le monde. Le faire de cette façon-là, ça va améliorer le nombre de gens qui vont accéder facilement au dépistage, contrairement à ce qu'on est en train de faire jusque-là.
Oui, Dona Chimbose, nous avons appris que la ville de Kolwezi, l'expérience va commencer par la ville de Kolwezi. Est-ce qu'il y a une raison qui justifie le choix de Kolwezi pour lancer cette nouvelle approche?
Oui, pour le docteur Franck Fomba de l'ONU SIDA, et qui est aussi associé au lancement de cette nouvelle approche, eh bien pour lui, il y a plusieurs raisons qui justifient ce choix, notamment la présence de plusieurs mining dans la ville de Kolwezi. Mining, ici, c'est l'expression courante pour désigner les entreprises minières. Il y a bien d'autres raisons encore. Je préfère que le docteur Fomba réponde lui-même.
Le choix de Kolwezi s'explique par plusieurs choses. C'est d'abord parce que Kolwezi, c'est une ville carrefour pour la province de Katanga. Même les sans ignorer l'explosion démographique que connaît la ville de Kolwezi avec l'exploitation des minerais. Hein, cela fait que les populations de partout à Mer du Fée et même de beaucoup de continents, de tous les pays se retrouvent à Kolwezi. Et cela n'est pas toujours sans risque par rapport à la propagation du VIH/SIDA. Des deux, comme je dis, c'est une ville qui se trouve pratiquement à la porte du district de Lualaba. Et de Lualaba, dans la province du Katanga, c'est un district qui est tout à fait vierge par rapport à la lutte contre le VIH/SIDA. Il faut dire qu'on n'y a pas encore intégré beaucoup d'interventions.
Bien, nous allons là de suivre le docteur Franck qui expliquait pourquoi on a choisi la ville de Kolwezi pour cette approche. D'aucuns posent le problème de respect des droits humains de Nana Chimboge comme obstacle au dépistage universel. La nouvelle approche lancée à Kolwezi n'a pas ce côté contraignant?
Ceux qui ont en charge la vulgarisation de cette nouvelle approche ne sont pas de cet avis. Il n'y a pas de contrainte pour eux. Ils parlent d'une simple persuasion que feront les prestataires en direction des candidats, en direction des patients. Il faut les consentements des patients pour qu'on arrive à ces dépistages. Le docteur Franck précise même que le personnel médical, les prestataires, comme on les appelle, n'a aucun droit de forcer un patient au dépistage.
Le test reste volontaire, si c'est un consentement plus ou moins implicite. Et si ce malade l'exprime librement pour dire que moi je ne voudrais pas faire, le personnel de santé n'a pas le devoir de l'obliger à le faire et n'a même pas le droit de restreindre tous les services qu'il pouvait lui apporter.
Bien, le test reste volontaire. Là, c'était le docteur Franck qui le disait. Est-ce qu'il n'y a pas risque de Nana Chimboge de voir certains malades commencer à fuir les hôpitaux et certains centres de santé pour échapper au dépistage?
J'ai également entendu certains observateurs exprimer cette crainte, mais le docteur Franck et même les docteurs Tarsis ont révélé que l'expérience d'autres pays qui ont expérimenté cette approche avant, leur expérience donc prouve le contraire. C'est dire donc, d'après eux, la nouvelle approche qu'ils préconisent a déjà fait ses preuves ailleurs. Je vous propose d'écouter la confirmation du docteur Franck.
Cette expérience n'a pas commencé chez nous. Les pays qui ont expérimenté déjà, comme la Zambie à côté de chez nous, avaient aussi pensé de la même manière au début. Maintenant, plutôt constaté le contraire. C'est que dans certains structures, cette approche a plutôt fait qu'on ait un peu plus de malades qui utilisent les services de santé, contrairement à tout attente.
Dona Chimboge, est-ce que vous avez d'autres précisions à nous donner avant de terminer avec vous?
Juste un tout petit mot pour ajouter que cette nouvelle approche est encore à l'étape de la sensibilisation des prestataires, c'est-à-dire des infirmiers et des médecins, et c'est pas encore dans la masse. Et cette nouvelle approche est aussi à l'étape de l'élaboration des matériaux de travail. C'est ce que nous a confirmé les responsables provinciaux de l'OMS ici à Lubumbashi, le docteur Tarsise Longo.
Bien, merci Dona Chimboge pour ce dossier. À la prochaine. Hein.
À la prochaine, au revoir.
Ce vendredi de 10h à 11h, heure du Kinshasa, découvrez en direct dans Okapi Action
une ville, un territoire, un quartier ou encore un coin oublié parce que complètement enclavé.
Toute l'équipe d'Okapi Action vous amène là où vous ne l'aurez jamais imaginé.
Exprimez-vous donc en direct et partagez avec tous les Congolais vos problèmes.
Okapi Action, le magazine qui vous rend service au quotidien.
Bien, juste après, nous serons à Kitokimosi où nous allons retrouver Berry et Tati qui sont déjà là avec en compagnie de la population. Mais là, nous allons nous entretenir avec Franck, le docteur Franck Famba, chef du bureau ONU SIDA à Lubumbashi. Docteur Franck Famba, bonjour.
Bonjour.
Oui, docteur, avec vous, nous allons parler de la nouvelle approche, la nouvelle stratégie que vient de lancer l'OMS et le PNMLS. L'OMS et le PNMLS, nous savons, nous venons d'apprendre, vient de lancer une nouvelle stratégie de dépistage du VIH-SIDA. Quels sont les objectifs poursuivis en changeant de stratégie?
Merci pour la question. Je crois que on n'a pas changé de stratégie, mais on a plutôt renforcé la stratégie existante, partant d'un certain nombre de considérations. Les grandes mutations qu'on a enregistrées par rapport à l'épidémie, notamment de nouvelles de nouvelles infections et même le fait que l'infection a commencé à plus s'éjouer et même se féminiser. Mais aussi, on a constaté des grandes mutations en ce qui concerne la réponse. Donc, de plus en plus, il y a quand même des fonds qui sont alliés à la lutte contre les VIH-SIDA. Mais échange, on se rend compte que qu'il n'y a que moins de 20% des hommes et des femmes qui connaissent en réalité leur pathologie. Il y a peut-être moins de 5 dans notre pays. Alors, c'est comme ça que l'on se dit, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir dans le sens de renforcer, n'est-ce pas, la stratégie qui existe. Et c'est ce qui a été fait. On s'est dit qu'au lieu d'attendre que ce soit les clients qui viennent solliciter le service, on trouve une stratégie pour que les prestataires ou les soignants puissent carrément proposer le service à tous les patients qui utilisent les services de soins.
Oui, docteur, pour arriver à renforcer de stratégie, est-ce qu'on peut dire que l'ancienne stratégie n'a pas bien marché?
Bon, je veux dire que ça n'a pas très bien marché, c'est peut-être une question d'une grande évaluation, mais au moins on a constaté que les résultats jusque-là ne sont pas satisfaisants et qu'il faille devoir les renforcer.
Oui, mais avec la nouvelle stratégie, avez-vous des remèdes pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs de l'autre fois?
Oui, on a un peu de remèdes, mais plutôt mieux dire, on a un peu plus de garanties. Parce que nous avons évolué jusque-là dans un système où il y avait faible couverture des services des conseils de dépistage volontaire.
Ouais.
Donc pas partout qu'on peut retrouver forcément un service de CDV, surtout quand on a quitté les grandes villes de notre pays. Et puis de deux, même dans des villes où on a des services de CDV, on a trouvé une faible utilisation de ce service. Alors, les garanties que nous avons, c'est que les sociétés de santé sont un peu éparpillées partout, hein, à travers les pays, même dans des coins les plus réprimés. Et on pense que si on intégrait la lutte contre le VIH-SIDA et en particulier le dépistage, dans la plupart des sociétés qui sont dans les fonds de notre pays, il y a vraiment possibilité qu'on puisse enregistrer un grand nombre de gens qui connaissent leur physiologie.
Oui, mais docteur, mais qu'est-ce qui bloque la population à se faire dépister?
Ce qui bloque la population à se faire dépister, il y a plusieurs choses. D'abord, nous pouvons citer en premier la stigmatisation et la discrimination qui vivent les personnes vivant avec le VIH. Donc, dans notre culture, on n'a pas encore intégré le VIH-SIDA comme étant un problème réel de la société avec les gens, avec lesquels les gens peuvent vivre sans problème.
Ouais.
Ça fait vraiment que les gens soient stigmatisés et cet état de choses ne permet pas toujours aux autres de vouloir connaître leur statut physiologique. Ça, c'est bien. De deux, c'est aussi un problème d'information.
Ouais.
Donc, il faut aussi dire que quand bien qu'on en parle, mais les gens ont souvent besoin d'une information de proximité. Ils ont vraiment besoin de communiquer. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui leur en parle, qui peut poser suffisamment de questions, avoir suffisamment de garanties, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les cas où ils sont déclarés infectés au VIH. Donc, c'est autant de choses qui sont quand même plus légères.
Oui, en parlant de problèmes d'information, mais c'est à vous de changer d'approche avec vos partenaires sur le terrain.
Oui, justement, c'est que je ne veux pas dire qu'on a changé d'approche. On a formalisé une approche qui a déjà fait ses preuves.
Oui, vous avez renforcé, vous avez dit.
Oui, ici, on va maintenant apporter une information de proximité pour les malades qui utilisent les services de santé. Mais pour mémoire, je pense que la stratégie est déjà mise en œuvre dans un certain nombre de services. Par exemple, en ce qui concerne les services de prévention de la transmission mère-enfant du VIH, la PMU. En fait, cette stratégie qui est utilisée, donc les fonds viennent utiliser les services de CPM, mais on s'arrange aussi pour leur donner l'information concernant le VIH. Et dans ces conditions-là, on a même enregistré un taux d'acceptation des tests allant jusqu'à 90%.
Donc, avec ce renforcement de capacité, si je comprends bien, docteur, on peut dire que le dépistage sera plus volontaire, hein?
Vous dites quoi?
Le dépistage reste volontaire, on l'a suivi, mais là, avec cette nouvelle approche, puisque vous avez impliqué les médecins et les infirmiers, on suppose que quand un patient ira à l'hôpital se faire soigner, on va faire ce test-là sans qu'il ne le sache.
Non. Je crois que dans les deux cas, les procédures restent les mêmes.
Mm-hmm.
D'abord, les consentements éclairés. Ainsi, les besoins éclairés, là, je peux faire souligner, ça veut dire qu'on aura donné suffisamment de la matière aux patients pour qu'ils puissent se décider.
Ouais.
Et aussi, les conseils et la confidentialité qui reste de mise. Alors, parlant du consentement éclairé, il faut dire que dans la stratégie habituelle, on a recours à un consentement explicite.
Ouais.
Hein, où c'est le client ou le patient qui vous dit qu'il veut faire les tests. Mais ici, on aura plutôt une démarche autre. Ça veut dire qu'on va avoir un consentement présumé. Le malade qui arrive à l'hôpital, on se dit qu'il n'a pas de problème pour qu'on lui fasse les tests. S'il a un problème, c'est que là, c'est le malade lui-même qui l'exprime, qui dit qu'il ne veut pas.
Oui, mais si ce malade... Docteur.
En lieu et place,
oui. Oui. Je disais, ce malade présente tous les symptômes du VIH-Sida, qu'il tousse, qu'il a tuberculose, qu'il présente tous les symptômes, est-ce que vous allez faire le test sans... Vous pouvez faire le test sans son consentement? On peut faire le test sans...
Non, jamais on peut violer la volonté du malade. Hein. Donc si le malade estime qu'il ne veut vraiment pas, on ne peut pas le faire. Mais tout ce qu'on a le devoir de faire, c'est de les persuader davantage,
mm-hmm.
avec des explications, de savoir les avantages qu'il y a, n'est-ce pas, à connaître son statut sérologique. Parce que le plus grand avantage avec cette approche, c'est que ça rend plus ou moins efficace la prise en charge des patients.
Mm-hmm.
Vous imaginez, parce que c'est quand même une structure de santé, et que vous ne connaissez pas son statut sérologique, alors que le patient est déjà VIH positif, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de soins qu'on ne sait pas lui apporter, simplement parce que le statut sérologique n'est pas connu.
Mm-hmm.
Donc c'est tout ça qu'il faut savoir aux malades pour lui permettre, n'est-ce pas,
oui, docteur Franck Samba, quels sont alors les avantages que présente cette approche, puisque vous avez fait une étude, vous êtes resté longtemps sur ce dossier?
L'avantage, c'est comme je vous dis, premièrement d'abord, c'est de renforcer la prise en charge.
Mm-hmm.
Et surtout pour des personnes qui sont au VIH et qui ne se connaissent pas encore. Donc le fait de se rendre à l'hôpital permet à ce que leur statut soit vite connu et leur prise en charge beaucoup plus adaptée.
Mm-hmm.
C'est aussi pour renforcer la prévention, même des personnes qui ne sont pas encore infectées.
Mm-hmm.
Les études ont montré que lorsque une personne qui s'accuse plus ou moins dans le passé hein, par rapport à un mauvais comportement,
mm-hmm.
une fois qu'on est psychologique comme étant négatif, et normalement la personne prend un peu plus conscience et améliore sa façon de vivre. Quoi.
Oui, mais
c'est vrai que ce sont ces avantages-là que nous voulons capitaliser pour cette nouvelle approche.
Oui, mais quels sont les obstacles que pourraient rencontrer les prestataires qui sont les médecins et les infirmiers dans la nouvelle approche?
Oui. Les obstacles, vous voulez dire?
Oui, quels sont les obstacles que pourraient rencontrer ces prestataires qui sont les médecins et les infirmiers?
Bon, les obstacles qu'on pourra éventuellement rencontrer, c'est d'abord l'incompréhension, surtout dans la mesure où le message ne passe pas correctement. Si les gens vont s'imaginer qu'il n'y a plus de consentement,
mm-hmm.
le test va vraiment être un obstacle. C'est comme ça que nous préférons vraiment soigner cette partie des choses pour dire que le consentement, la confidentialité restent vraiment d'application dans la nouvelle approche. Et je crois que quand les gens auront eu suffisamment l'information, surtout en ce qui concerne ces deux aspects, on aura plus assez d'obstacles pour réussir l'approche.
Oui, docteur, nous avons suivi à travers notre reportage de notre confrère Donat Timbos que le souhait des chercheurs serait que tous les adultes subissent un test de dépistage au moins une fois par an. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste et que les adultes vont le faire?
Oui, c'est plus ou moins réaliste. C'est plus ou moins réaliste parce que je peux partir d'un exemple de Mukamba.
Mm-hmm.
On a tenté une expérience chez un certain nombre d'adultes où on va constater que sur 100% des adultes à qui on avait proposé le test,
98% étaient ignorants par rapport à leur statut sérologique. Mais après que l'on ait fait le test, on va se rendre compte que plus de 50% de ces adultes-là étaient séropositifs, mais sans se connaître. Et ce qui est encore plus amusant là-dedans, c'est que 83% de ces mêmes adultes avaient été au moins une fois à l'hôpital les 6 derniers mois. Alors, nous pensons que pour autant que au moins une fois, ça c'est vraiment le souhait, au moins une fois chacun de nous peut se rendre à l'hôpital par an, ça veut dire qu'au moins une fois chacun aura la possibilité de connaître son statut sérologique et si tout va pour le mieux, il est possible que l'on puisse fortement améliorer le taux de connaissance du statut sérologique.
Oui docteur, c'est bien beau tout ça, mais ici chez nous on sait que quand on fait une fois le test de VIH-SIDA et que c'est négatif, on sait qu'on n'a plus le SIDA. C'est inutile de faire le SIDA l'année prochaine ou deux ans après. Vous savez que c'est ça notre vision ici au Congo. C'est comme ça qu'on réfléchit.
Oui, c'est une vision que nous sommes en train de combattre. Et c'est là même le bien fondé de l'information. Donc, nous devons vraiment apporter suffisamment d'informations concernant tous les enjeux de l'infection à VIH. Donc, dire qu'aujourd'hui, si on a un statut négatif au VIH, il n'y a pas de garantie que l'on ne peut pas avoir le VIH, donc on n'a pas le devoir de se comporter n'importe comment. Mais c'est autant d'informations que les prestataires donnent aux personnes qui acceptent de faire le test. Et d'ailleurs, au besoin, lorsqu'on a recours à des tests indirects, qui sont les plus courants chez nous, généralement, on recommande toujours que la personne puisse refaire le test dans les 3 mois pour vraiment confirmer que qui a absence de VIH.
Oui, docteur, j'ai retenu une chose. Donc, si quelqu'un qui n'a jamais fait le test VIH-SIDA, pour qu'il sache son vrai statut sérologique, il doit faire ça une fois tous les 3 mois, c'est ça?
Non, j'ai pas dit qu'il doit faire ça une fois les 3 mois.
Mais là,
il doit le faire d'abord une première fois, contrôler son comportement.
3 mois après.
Ce qu'il faut dire, c'est que le comportement dont je parle ici, il ne s'agit pas seulement du comportement sexuel, comme certains le pensent, mais c'est plutôt le comportement par rapport à tous les modes de transmission. Là, il y a essentiellement 3 modes, donc on peut avoir le VIH par le sexe, on peut l'avoir par le sang, ou même alors par le biais mère-enfant. Donc, quand je parle de comportement, je vois tous ces 3 aspects mis ensemble.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de risque, docteur, avec cette nouvelle approche de voir des malades commencer à fuir les hôpitaux et les centres de santé pour échapper au dépistage?
C'est possible, ce risque-là, mais je crois qu'il est très moindre. Il est très moindre parce que nous avons des preuves. Ça peut ne pas être le cas. On a vraiment une approche dans d'autres pays, surtout en Afrique australe, comme au Ukraine, où on s'est rendu compte que non seulement que ça ne faisait pas fuir les malades, comme vous l'avez dit, mais qu'en échange, le taux d'utilisation des services de santé avait même augmenté. On a fait la même observation au Zimbabwe, mais là nous sommes en train de parler des pays frères. Mais chez nous, on a aussi l'expérience avec la PTME.
Ouais.
Avec la PTME, on n'a pas vu des femmes fuir les services de certaines simplement parce qu'on leur demandait les tests. Mais on a plutôt vu de ces femmes-là qui venaient même rappeler. Si par hasard un jeune prestataire m'en a pas parlé, il y a de ces femmes-là qui posent carrément la question de savoir si on ne pouvait plus tester. On a eu la même expérience aussi avec les services de prise en charge de tuberculose, où de plus en plus on propose à tous les tuberculeux le test VIH, mais en tout cas, la surprise a été bonne. La plupart des tuberculeux ne refusent pas le test VIH. Donc on pense que dans les autres services, ce sera de même parce que les malades sont les mêmes.
Oui. D'après vous, est-ce qu'il y a ici chez nous le dépistage volontaire se porte bien?
Il faut dire que le pays a des petits problèmes dans tous les domaines. Il est en train de se remettre.
Oui.
Et la lutte contre le VIH-SIDA est l'un des grands piliers pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Ça signifie que la lutte contre le VIH prend la même marche que les pays, quoi. Ça veut dire que les choses sont quand même en train de s'améliorer. Mm-hmm. Mais si on voudrait passer à une vitesse supérieure, hein, donc on se dit qu'au lieu d'attendre que les gens puissent vivement connaître leur statut sérologique, comme c'est le cas avec les CDV de chaque jour, on voudrait carrément donner l'occasion aux gens de pouvoir le savoir davantage et le savoir très rapidement pour améliorer leur prise en charge. Mais en gros, il faut dire quand même que les choses s'améliorent de plus en plus.
Bien, docteur Franck Samba, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes chef du bureau ONU-SIDA à Lubumbashi. À la prochaine.
Okay, merci, je vous remercie.